C'était donc il y a un an, jour pour jour, l'assassinat de Samuel Paty, décapité par un terroriste islamiste tchétchène pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. On en parle ce matin avec nos deux invités. Christine Guimonet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie et secrétaire général de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. À vos côtés, Rachid Benzine, bonjour.
Bonjour.
Islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur. Vous êtes aussi romancier, dramaturge et l'auteur d'un livre remarqué intitulé « Le Coran expliqué aux jeunes » paru aux éditions du Seuil. On commence avec les professeurs en première ligne. D'ailleurs, hier, certains professeurs n'ont pas su ou pas pu prendre le temps d'organiser longuement un débat avec les élèves sur la tolérance, sur le fait d'enseigner, sur la laïcité. Faute peut-être de directives précises de l'administration, chacun s'est débrouillé comme il peut. Est-ce qu'on n'en demande pas trop aux professeurs ? Christine Guimonet.
Si, beaucoup, parce qu'en fait, on est toujours chargé de symboliques très fortes. Et ce temps de recueillement, c'était important dans les salles des professeurs, parce que l'année dernière, quand il a fallu retourner en classe après les vacances de Toussaint, on était encore sous le choc de ce qui s'était passé. On a très mal vécu de ne pas avoir ces deux heures de concertation pour pouvoir discuter entre nous, essayer de réfléchir à la manière dont les uns et les autres allaient parler aux élèves, parce qu'une minute de silence, c'est une chose, mais ça s'explicite. Il faut que les élèves comprennent pourquoi on va leur demander de se recueillir pendant une minute.
Donc il y a un temps de décryptage. Vous n'avez pas eu le temps de préparer ça aussi bien que chacun l'aurait souhaité ?
L'année dernière, non.
Cette année,
c'est un petit peu différent parce qu'on a été prévenu une semaine à l'avance alors que ça aurait quand même pu être anticipé beaucoup plus tôt. Mais on avait déjà en tête un certain nombre de projets ou de thématiques avec lesquelles on allait intervenir auprès des élèves. Je suis partie comme j'ai commencé avec les élèves de terminale, de leur ressenti de l'année dernière pour voir un petit peu comment ils avaient vécu le retour en classe. Comment ils avaient compris cet assassinat et si un an après, avec leur maturité, ils avaient saisi certains enjeux et ça a été une séance tout à fait productive.
Qu'est-ce qu'ils disent ?
Ouais, votre impression.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an ?
Eux comprennent très bien les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que j'ai des élèves très mûrs qui font très bien la différence entre les croyances et les connaissances, entre les dogmes et les personnes. Et c'est là aussi qu'on voit la portée du travail quotidien qu'on fait avec eux.
Donc vous les avez vus changer pendant un an en fait, vraiment, en un an.
Oui, eux je les ai vus changer, d'autant plus que je les avais en seconde, une partie de ces élèves-là, et on avait travaillé sur l'islam. Je les avais emmenés à l'Institut du monde arabe pour écouter des professeurs d'histoire médiévale, Anne Lisneff, Dominique Valérian, David Bramouli, ils avaient eu des conférences assez pointues, et ça les avait passionnés, ils avaient posé beaucoup de questions.
Et on a entendu ici même des témoignages de professeurs qui préféraient parfois s'auto-censurer pour ne pas créer de troubles supplémentaires. Y a-t-il une peur persistante parmi les professeurs aujourd'hui ?
On dira plutôt qu'il y a une forme de vigilance dans le sens où on veut être certain que ce qu'on a expliqué aux élèves a été bien compris. Parce que finalement, un certain nombre de soucis qu'on peut avoir avec des parents d'élèves démarrent par quelque chose qui a été mal compris et qui est raconté à la maison n'importe comment. Donc il faut être clair. Et c'est différent du mensonge. Parce que le mensonge de l'année dernière entraîne...
Qu'est-ce que vous appelez le mensonge ?
Le mensonge de l'année dernière, c'est une collégienne qui explique à son père...
C'est à l'origine, d'accord.
Le contenu d'un cours auquel elle n'a jamais assisté.
Mais est-ce que vous avez peur, malgré tout, parfois, peut-être, d'aborder certains sujets ? Est-ce qu'il y a des sujets d'histoire-géographie que vous mettez de côté ?
Non. Non, non.
Il n'y a aucune autocensure ?
Non.
Ni consciente, ni inconsciente ?
Non. Parce que j'ai la conviction, et beaucoup de mes collègues la partagent, que... On doit pouvoir s'emparer de sujets qui sont connectés à nos disciplines, y compris s'ils sont clivants, parce que c'est là aussi qu'on va voir quels sont les besoins intellectuels des élèves. Qu'est-ce qu'ils sont capables d'expliquer, de comprendre, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Quelles sont les questions qu'ils vont poser. Et si on refuse d'entrer dans certains débats, bon, tout en canalisant évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'accepter en cours des propos qui sont inacceptables ou qui tombent sous le coup de la loi, Si on les laisse sans réponse, on va fermer le débat et ils n'auront pas avancé d'un iota.
Mais ce que je n'ai pas bien compris encore ce matin, c'est lorsqu'il s'agit d'aborder ces questions autour de la citoyenneté, la laïcité, est-ce que les professeurs préfèrent leur liberté pédagogique ou est-ce qu'ils préfèrent avoir une directive du ministère qui leur dit « voilà les béquilles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ».
Alors il faut faire la différence entre la liberté pédagogique et puis les injonctions. Avoir des ressources, des documents dans lesquels on peut puiser, ça peut être intéressant. Mais on est tout à fait capable de déterminer en fonction de chaque classe les documents à utiliser, parce que chaque classe, chaque groupe, c'est une alchimie différente. Donc on peut avoir les mêmes documents avec deux classes différentes, le cours ne sera pas le même.
Alors, il y a quand même ce chiffre intéressant et surtout impressionnant. 80% des enseignants reconnaissent avoir déjà été confrontés au moins une fois à des revendications ou à des contestations religieuses. Vous, c'est votre cas, Christine Guimonet. Est-ce que vous avez déjà été confrontée à de telles situations?
Oui, mais
lesquelles,
il faut...
par exemple?
Alors, par exemple, des parents qui, lorsque je travaille dans un collège, viennent me dire que pourquoi est-ce qu'il y a un chapitre sur l'islam, parce que ça, c'est pas leur religion. Des élèves qui ont refusé d'entrer dans une cathédrale parce que ça n'était pas leur religion, donc ils n'ont pas perçu qu'on n'allait pas les faire entrer dans un lieu de culte, mais dans un lieu qui leur permettait de comprendre ce que c'était que l'art gothique.
Mais ça, vous connaissez ça depuis combien de temps? À partir de quand ça a commencé à se produire?
Alors ça, c'était dans les années 90, mais c'était très marginal. C'était très marginal. J'ai eu rarement des contestations, beaucoup plus des questions. Qui ne porte pas que sur la religion. Par exemple, quand on travaille sur la guerre d'Algérie, à plusieurs reprises, j'ai eu une incompréhension par rapport à ce que sont les harkis, et des élèves qui me disent « oui, bah, de toute façon, les harkis sont des traîtres ». Bon, donc là, je les fais parler, parce que c'est important de savoir ce qu'ils ont en tête. Et on passe deux heures après avec Fatima Besnassi-Lankou, et au bout des deux heures, ils ont une perception différente de ce qu'ils avaient en tête au départ.
Vous, Rachid Benzine, ce chiffre de 80% que je viens de donner, il vous surprend? Les élèves ont de plus en plus de revendications religieuses comme ça? Et si oui, pourquoi?
En tout cas, les élèves veulent s'exprimer de plus en plus sur leurs croyances intimes, sur une part de leur identité. Et la question, c'est comment nous allons gérer cela, à la fois au niveau de l'histoire, par la contextualisation, par l'esprit critique, mais en même temps, comment l'école doit aussi apprendre aux élèves à penser contre eux-mêmes. Et je crois que c'est ça le véritable travail, c'est-à-dire que lorsqu'un élève arrive, il arrive avec un imaginaire, il arrive avec un narratif qu'on lui a raconté dans la famille, dans le quartier ou ailleurs, et donc du coup, on a quelque part une guerre des récits. Et donc du coup, c'est important de savoir quel est l'imaginaire, l'ensemble des représentations, le narratif, le récit, pour dire ben, qu'est-ce qui fait que ce jeune arrive à se reconnaître dans ce récit.
Est-ce que du coup ces jeunes musulmans, alors évidemment c'est toujours très compliqué de faire une entité, ces jeunes musulmans comme s'ils étaient un et indivisibles, est-ce que ces jeunes musulmans, je le dis quand même, connaissent si bien cette religion qui aujourd'hui ponctue facilement chacune de leurs expressions quotidiennes?
Je crois qu'ils sont comme l'ensemble des Français, c'est-à-dire une inculture religieuse, une inculture historique. Et c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons des jeunes qui sont complètement déconnectés d'une longue tradition. Ils ont des bribes qu'ils vont chercher sur Internet et ils se font une représentation religieuse qui répond plus à des besoins identitaires que des besoins spirituels.
Mais si cette jeunesse ne se reconnaît pas aujourd'hui dans le récit national, à qui la faute ?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail que nous n'avons pas suffisamment fait. Et je dis souvent que, faute de créer un récit commun, nous devons être capables de mettre en commun nos récits. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur la guerre d'Algérie, sur les harkis, sur leur représentation, c'est-à-dire comment, ensemble, on fait récit. Et donc, du coup, il faut être capable de faire de la place au narratif de l'autre. Parce que si la République n'est pas capable, et moi je crois qu'elle est complètement capable de faire de la place au narratif de l'autre, vous allez avoir des groupes qui vont se saisir de cette problématique et qui vont proposer une reconnaissance de substitution. Parce que je crois que la question de la reconnaissance est au cœur de l'école et elle est au cœur de la société française.
Mais il faut être capable, malgré tout, les enseignants n'apprennent pas forcément à gérer tout ça. Il y en a beaucoup, du coup, qui mettent la poussière sous le tapis. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui, beaucoup?
Ça dépend. Je ne suis pas sûre qu'en mettant la poussière sous le tapis, on avance.
Ça, c'est sûr, mais parfois, on se protège, en fait.
Ça, je comprends aussi qu'on se protège. Mais parfois, plus que des revendications, il y a une... une demande d'explication. En fait, quand on travaille, par exemple en spécialité, en première, on a un nouveau thème là qui s'appelle État et religion. On a du temps pour travailler. Quand on pose des questions aux élèves, alors qu'est-ce que vous savez sur les origines de l'islam, du judaïsme? Est-ce que si on travaille sur un corpus de vocabulaire, vous êtes capable de dire si c'est du vocabulaire chrétien, du vocabulaire du judaïsme, de l'islam? Est-ce que vous savez ce que c'est que les dissidences, les hérésies? On voit très vite où sont les ignorances et où sont les savoirs. Et en fait, ça les intéresse énormément. Et le but, c'est qu'ils se rendent compte que ça n'est pas utile d'être croyant pour avoir des savoirs, qu'on peut être athée et être très intéressé par l'histoire du fait religieux, et qu'on va faire la différence entre ce qui relève de la foi et ce qui relève de l'histoire. Et que les deux ne sont pas du tout incompatibles en travaillant avec des textes rédigés par des historiens qui décryptent les sources. Ils comprennent mieux. Et l'impression qu'on a aussi, c'est que parfois, il y a une espèce de mythologie, en fait, de ce qu'ils pensent être l'islam, le judaïsme ou le christianisme des origines. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la pratique d'aujourd'hui. Et la contextualisation historique, ça sert aussi à ça.
Sur le respect des religions, le gouvernement a lancé justement il y a quelques semaines, à la rentrée scolaire dernière, une campagne d'affichage, justement, sur le respect des religions. Vous allez me confirmer ou pas, visiblement, les proviseurs ont boudé cette campagne. Et si oui, pourquoi ?
Dans mon lycée, je ne l'ai pas vu. Peut-être que, avant de faire une campagne de ce type, il faut la penser en amont avec des praticiens de terrain.
Donc avec les professeurs.
Voilà, et c'est comme aussi quand vous avez des affiches pour recruter dans l'éducation nationale ou dans la justice, on a des affiches qui sont totalement sexistes, alors que c'est l'inconscient qui s'exprime et le résultat est une véritable catastrophe.
Mmh. Alors je rebondis sur Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, qui a lancé cette semaine son laboratoire pour la République. On connaît la conception très rigoriste qu'a Jean-Michel Blanquer de la laïcité. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale, sur le sujet, vous semble manquer de neutralité? Je pose la question à tous les deux et je commence avec vous, Rachid Benzim.
Moi, je pense qu'il faut faire attention aux usages différents de la laïcité, comme si la laïcité était l'alpha et l'oméga de nos problèmes, comme si c'était un mot magique qui allait résoudre l'ensemble des problématiques. Et je crois qu'on en demande trop à la laïcité. Il y a des questions éducatives, il y a des questions de justice sociale, il y a des questions d'inégalité, et mettre tout ça sur la laïcité, à mon avis, on fait absolument fausse route, et on ne rend pas service à ce qu'est la laïcité. Et pour moi, la laïcité, effectivement, c'est aussi une attitude critique devant la connaissance, et qu'elle permet fondamentalement cette pluralité et de penser contre soi-même. Et je pense que si on prenait la laïcité avec cette capacité de penser contre soi-même, et qu'il y a un centre dans une société qui est vide, et qu'aucune idéologie, aucune politique, aucune religion ne peut le détenir, ça me semble la possibilité de laisser cet espace de jeu pour justement aller dans ce que le philosophe Olivier Abel appelle honorer le conflit. Il y a des conflits dans la société, comment on honore ces conflits pour les transformer en dialogue ?
Que la laïcité ne soit pas l'alpha et l'oméga et forcément au centre, dites-vous, de ces problématiques. Cependant, est-ce bien pour des raisons religieuses qu'aujourd'hui, certaines jeunes filles ne veulent pas aller aux cours de gymnastique et encore moins à la piscine ? C'est la religion qui est mise en cause dans ces cas-là ?
En tout cas, c'est un certain narratif du religieux. Vous savez que le religieux, c'est un narratif. Hein. Vous avez un texte, vous avez des interprétations, puis vous avez une multiplicité d'interprétations. Et à l'intérieur de cette multiplicité d'interprétations, on dit que telle interprétation est la bonne, l'unique et la vraie. Et donc on voit bien que dans les familles et ailleurs, il y a ce type de discours. Et c'est très intéressant que à l'intérieur du religieux, il puisse y avoir une critique du religieux. Et bien savoir que ceux, en tout cas, qui expriment des avis religieux, que ce soit les imams ou les cadres, il faut savoir qu'un énoncé religieux, quel qu'il soit, a des effets psychologiques, politiques dans la société. Donc il y a une attitude, me semble, de responsabilité par rapport à toutes les énonciations religieuses.
Et vous, donc, Christine Guimonet, vous en pensez quoi de ce laboratoire de la République? Est-ce qu'il est dans son rôle ou pas, Jean-Michel Blanquer? Est-ce que ça vous embête que ce ministre fasse ça ou pas?
Ça ne nous concerne pas.
D'accord.
Le rôle du ministre de l'Éducation nationale, c'est de soutenir ses professeurs, et c'est ce que nous avons demandé à Jean-Michel Blanquer il y a un an, afin que, lorsqu'un collègue se retrouve dans une situation difficile face à un élève, face à ses parents, l'institution fasse corps immédiatement à ses côtés, qu'on ne vienne pas demander préalablement oui, mais alors qu'est-ce que le professeur a dû faire ou a dû dire pour qu'il se passe ceci ou cela, et que il n'y ait pas de discordance entre le discours de fermeté du ministre vis-à-vis de tous ces problèmes et ce que nous rencontrons dans notre vie professionnelle. Nous sommes au,
on sent un peu de rancœur voilà, là, dans votre manière d'exprimer les choses. Je me trompe ou pas?
Mais parce qu'en fait, le fameux pas de vague, ça existe depuis très longtemps. Les prédécesseurs du ministre ne s'en sont pas particulièrement saisis. La culpabilisation des enseignants, c'est quand même très fréquent. Et ce qui nous exaspère, je vous le dis très franchement, c'est d'entendre des éditorialistes de plateau, à la télé, sur certaines radios, avec des chroniqueurs qui ne sont pas professeurs, qui racontent n'importe quoi, et qui savent toujours mieux que nous ce que nous devrions faire et ce que nous devrions dire. Donc le ministre doit être là comme accompagnant, de manière à ce que le discours, les professeurs doivent être respectés, ils doivent être soutenus, ruissellent à tous les échelons de la structure et que les différents clapets hiérarchiques ne se bloquent pas.
Bah, profitez-en ce matin parce que ce ne sont pas des chroniqueurs mais des paroles de profs, que de votre parole que l'on prend en compte ce matin. Des professeurs aussi qui se sentent parfois en insécurité. Le ministère, lorsqu'il y a des demandes de protection, répond qu'elles sont quasi systématiquement immédiates, ces protections, il n'y a pas de délai. Ça dit, le ministère ne donne pas de chiffres. Demande de protection au ministère, ça tombe facilement?
En principe, c'est ce qui devrait se passer.
Ce n'est pas ce qui se passe.
C'est ce qui devrait se passer. On sent depuis un an un frémissement, parce qu'on ne peut pas laisser des collègues dans une insécurité avec des contextes de menaces. La protection doit être immédiate. Donc il y a ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Et il faut aussi que, au niveau des personnels de direction, au niveau académique, au niveau rectoral, il n'y ait pas de discordance non plus.
Rachid Benzine, une dernière question à propos d'Emmanuel Macron qui a annoncé il y a quelques mois la fin progressive de l'accueil des imams. Vous en parliez, ces imams envoyés par d'autres pays pour les remplacer, notamment par des imams formés dans les universités françaises notamment. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple à mettre en place?
Ben, c'est assez difficile dans la mesure, ce n'est pas le lieu de votre formation qui va dire fondamentalement les expressions que vous allez énoncer. Vous pouvez très bien avoir une formation ici en France et être anti-républicain. Et je crois que mettre uniquement l'accent sur la formation des imams comme si c'était la solution miraculeuse va demander beaucoup de temps, parce que je crois qu'il y a des problématiques qui vont au-delà de cette formation. Aujourd'hui, le grand problème que nous avons, c'est que les gens vont chercher leurs informations sur les réseaux sociaux, ils se créent un imaginaire d'exclusion réciproque, et quand vous avez ce choc des imaginaires de part et d'autre, et on le voit bien aussi au niveau de l'éducation nationale, ça me semble très difficile.
Eh bien, merci d'être venus en parler ce matin tous les deux sur France Inter. Merci et bonne journée.